Bon lundi tout le monde, bien heureux de vous retrouver. C'est d'ailleurs en fin de journée comme ça qu'on a rendez-vous ensemble pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et on commence ce soir en parlant de la situation dans nos hôpitaux. La crise hospitalière qui sévit actuellement met en péril, comme jamais auparavant, la mission des urgences du Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est en fait la première phrase d'une lettre signée par une soixantaine de chefs d'urgence et envoyée au PDG des établissements de santé, dans laquelle les signataires soulèvent que plusieurs décès potentiellement évitables sont survenus aux urgences et tout simplement à cause d'un manque de lits d'hospitalisation disponibles. Ces médecins demandent donc au réseau d'ouvrir des lits pour l'été et non enfermer comme c'est l'habitude pour la saison estivale. On en parle avec la docteure Judy Morris. Elle est urgentologue et présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Bonsoir, Dr. Morris.
Bonsoir.
Vous êtes bien au fait de la situation. Comment expliquer qu'on est rendu à perdre des patients qui meurent parce qu'on n'a pas de chambre et de lit à leur offrir?
Bien, c'est sûr qu'on subit un peu l'impact des deux dernières années, la crise du personnel, la COVID et tous les impacts qui ont frappé un peu le réseau de la santé. Ceci étant dit, il y a une pression énorme dans le réseau, mais elle semble être vraiment centrée, puis la grande majorité mise sur les épaules des gens aux urgences. On manque de lits dans le réseau, dans les soins de longue durée en première ligne, dans les hôpitaux. Bien, c'est aux urgences que tous ces patients-là débordent quand on doit attendre, quand il manque de place ailleurs. Ça met une pression énorme sur nos travailleurs puis sur les patients ultimement.
Parce que c'est souvent la première étape, hein, l'urgence. Dans la lettre, il est précisé qu'il y a plus de 50 % des civières des urgences qui sont occupées par des patients en attente d'un lit à l'étage. Ça veut dire qu'il y a des centaines de patients pour qui on retarde une prise en charge de leur santé, qui attendent des heures à l'urgence avant de voir un médecin.
Oui. En fait, des fois, ils ont vu un médecin, on sait qu'ils ont besoin d'hospitalisation, mais ils attendent pour des soins spécialisés, des imageries, des opérations, tout ça parce qu'il manque de lits dans les centres hospitaliers, parce que des fois, il y a des goulots d'étranglement partout, parce qu'il y a des patients qui sont dans les lits d'hôpital, qui attendent des places en soins de longue durée. Donc, tout ça ralentit, puis ça bloque à l'urgence où là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de porte fermée, tout le monde peut rentrer. Puis ça fait des situations où on voit des chiffres là, quasi constants, 150, 180, 200 % d'occupation dans les urgences. C'est un point énorme pour les équipes en place.
Puis on va s'entendre, là, c'est pas une question de chambre ou de lit là, en termes de matériel. On a tout ça. C'est une question de personnel quand on dit qu'il y a un manque de lit. Puis là, on a l'habitude au Québec d'annoncer la fermeture de lit pendant l'été pour laisser justement le personnel prendre des vacances, peut-être de souffler un peu. Mais là, les médecins chefs demandent qu'on ouvre plutôt des lits. Pour ouvrir des lits, ça prend du personnel. Alors là, c'est la roue qui tourne. C'est quoi la solution?
Oui. Bien, déjà, là, de mieux se parler, de mieux coordonner les efforts. On sait que d'avoir des plans de surcapacité, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à 150, à 180 %? Qu'est-ce qu'on utilise comme personnel pour mobiliser les gens, pour mieux favoriser le flow? Il faut falloir mettre des équipes dédiées à ça, des coordonnateurs médicaux, des équipes de fluidité pour essayer de dire qu'est-ce qu'on fait quand ça déborde. Parce que là, il y a des moments où on a l'impression qu'on dit ben, ça déborde, puis on va vivre avec, puis ça va passer. Mais là, à l'avenue de l'été, avec le manque de personnel, puis avec les vacances qui sont requises, là, puis qui vont être les bienvenues pour tout le monde, ben, il faut avoir des plans pour mieux gérer ces chiffres-là qu'on voit actuellement qui ne vont pas s'en aller en diminuant, malheureusement.
Parce que c'est la santé des gens, c'est la vie de certaines personnes qui en dépend. Il y a 5 mesures qui sont exigées par les chefs des urgences dans leur lettre, dont d'avoir recours aux unités de chirurgie d'un jour, de salles de réveil, de cliniques externes pour accueillir des patients. Est-ce que c'est une avenue intéressante, selon vous, et possible?
Bien, à ce point-ci, là, honnêtement, tout devrait être sur la table. Où est-ce qu'on a du personnel, puis où est-ce qu'on peut mettre les patients pour rendre la situation, disons, moins dangereuse pour leurs soins, pour leurs conditions. Oui, ça va peut-être aller avec une diminution de soins. Est-ce que ça va aller en mettant sur pied des protocoles de dire, ce patient-là n'a peut-être pas besoin de rester à l'hôpital. Si on est capable de le faire revenir dans une clinique externe demain, on va sauver un lit d'hôpital. C'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on s'assoie puis qu'on coordonne mieux. Puis aussi de répartir la pression. Hein. Une des demandes, c'est de dire c'est pas vrai que nous, on déborde à 200 % puis que les étages et certains autres départements disent oh, nous, on est plein, on ne peut pas prendre de patients parce que à cause des règles de contrôle des infections ou d'autres choses.
Pour que les urgences ne soient pas des salles de débordement. Dr. Morris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci.
Ça me fait plaisir.
Dernière semaine de travaux à l'Assemblée nationale avant la pause estivale et les élections provinciales de l'automne. Les députés ont donc 4 jours encore pour faire adopter des projets de loi déposés un peu plus tôt cette session. Qu'est-ce qui sera possible de faire? On en parle tout de suite avec mon collègue Simon Bourassa qu'on retrouve à Québec. Salut Simon.
Salut Michel.
Il faudra vraiment prioriser des dossiers et en laisser certains mourir au feuilleton, comme c'est pas mal le cas normalement lors des fins de session.
Oui, ça arrive toujours. Là, présentement, bien, ce qui est en étude détaillée, c'est le projet de loi numéro 38, celui qui modifie la loi sur les soins de fin de vie, donc sur l'aide médicale à mourir. On sait que la volonté du ministre, puis des oppositions, là, du comité transpartisan, c'était d'élargir les critères pour que les gens puissent faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Ça siégeait aujourd'hui en commission parlementaire, ça reprend demain. Donc, il y a des bonnes chances que le PL 38 soit adopté. Sinon, le projet de loi 37 aussi, sur l'habitation qui a été déposé la semaine dernière par la ministre responsable d'habitation, André Laforêt, qui va réduire entre autres de 2 ans là, la fameuse clause F là, pour que les propriétaires d'immeubles construits il y a moins de 5 ans puissent augmenter comme ça à tout vent le prix de leur loyer sans égard aux dispositions légales prévues au tribunal administratif du travail. Donc, ça siège d'ailleurs aussi demain là-dessus. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit adopté. Pour ce qui sera laissé de côté, bien clairement, le projet de loi sur l'accès aux données dans le réseau de la santé là, pour permettre en fait d'avoir une meilleure idée de quel médecin prend combien de patients en temps réel dans les GMF. Ça, c'était une volonté du ministre de la Santé, puis visiblement, il va falloir le laisser tomber. Ça risque de reprendre ou de revenir à l'agenda législatif lors de la prochaine session.
Bon, par ailleurs, Simon, il a été question des redevances sur l'eau utilisées par le secteur industriel aujourd'hui. Le ministre de l'Environnement qui veut que les entreprises paient davantage pour l'eau qu'elles utilisent.
Oui, c'est Tommy Chouinard de La Presse qui nous apprenait ce matin que le ministère de l'Environnement a l'intention d'augmenter le prix des redevances sur l'eau. Ça avait été fixé en 2010. On était des précurseurs au Québec avec nos prix, nos redevances sur l'eau à l'époque. Ce n'est vraiment plus le cas. 10 ans plus tard, non, vraiment pas. Ailleurs au Canada, on fait déjà mieux que le Québec. Puis en Europe, ben, on n'en parle pas. C'est complètement différent, très clairement. Pour vous donner une idée, là, pour les industries qui fabriquent des produits minéraux qu'on dit non métalliques ou des pesticides, ça coûte environ 2,50 $ pour 1 million de litres d'eau utilisée. Pour ceux qui font de l'alimentaire, 5,25 $ par tranche de 75 000 litres d'eau utilisée. Donc, il faut revoir ça. Mm-hmm. Ça devrait être sous forme de projet de loi déposé cette semaine. Pas besoin de vous dire qu'on n'aura clairement pas le temps de l'adopter parce qu'il va rester une journée ou deux à la session parlementaire. Donc, ça risque d'être sous forme de promesse électorale là, que la CAQ ou du moins le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, là, va présenter cette hausse éventuelle des redevances sur l'eau.
Alors, on n'attendra pas, nous, l'automne pour en parler. On va poursuivre tout de suite avec mon invité. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plus d'une décennie qu'il n'y a pas eu d'augmentation des redevances sur l'eau au Québec. Simon en parlant, on en parle avec la directrice générale d'Eau Secours, Rebecca Pétrin, qui est avec nous. Bonsoir, Mme Pétrin.
Bonsoir.
Alors, comment d'abord avez-vous réagi à cette annonce qui arrive à peine 4 mois après un refus quand même catégorique de la CAQ là, d'augmenter les redevances sur l'eau?
Bien, justement, c'est avec surprise qu'on a lu ça dans les médias, nous aussi, ce matin. Surprise, mais agréable surprise. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se bat justement pour revoir à la hausse cette redevance-là. Donc, on est quand même content de voir que finalement, l'ensemble des partis au gouvernement du Québec sont favorables à une hausse de la redevance.
Bon, on va parler de chiffres. Sinon, on a abordé quelques-uns. Les embouteilleurs d'eau paient actuellement 70 $ pour 1 million de litres d'eau nette au Québec. Mm-hmm. En Ontario, c'est 7 fois plus. Là. On parle de 500 $, mais on est très loin des 10 000 $ par million de litres qu'exige le Danemark. Pourquoi il y a des écarts comme ça? C'est quoi notre problème avec notre relation avec l'eau? On y voit moins de valeur, quoi?
Probablement, en fait, parce que tout vient de l'initiative gouvernementale de légiférer pour cette ressource-là. Au Québec, on est ancré dans la croyance populaire que de l'eau, on va en avoir pour des siècles et des siècles encore à venir. On voit dans les derniers étés qu'il y a des stress hydriques dans certaines régions du Québec. Donc, des citoyens arrivent avec des puits à sec, des municipalités
on
doivent cesser.
Récemment avec Saint-Lin.
Saint-Lin et Laurentides, justement, qui se sont vus faire couper leur eau à chaque soir à 17 h 30 parce que, justement, il n'y avait plus d'eau. Je crois que les Québécois commencent à réaliser, en fait, qu'une mauvaise gestion de l'eau fait en sorte que certaines municipalités se voient manquer d'eau. Et le questionnement vient que c'est qui consomme le plus d'eau au Québec? C'est qui les responsables, en fait, de ces pénuries d'eau-là?
Bon, quand vous dites on a cette impression que l'eau potable, bien, il y en a énormément ici parce qu'on est quand même une réserve importante. Là. Le Québec possède 3 % des réserves mondiales d'eau douce. C'est quand même énorme. On est entouré de lacs. On a l'impression, donc, il n'en manque pas d'eau, puis il n'en manquera jamais.
Exactement. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a 3% des ressources en eau douce du monde. Malheureusement, cette eau-là n'est pas tous renouvelée. Mm-hmm. Il y a seulement un faible pourcentage qui est renouvelé annuellement. La majorité de l'eau provient de la fonte des glaciers il y a des millions d'années. Donc, certaines régions du Québec, on met beaucoup de pression et on amoindrit, on épuise nos ressources.
Qu'est-ce qui serait un prix acceptable?
Bon, moi, on me demandait beaucoup cette question-là aujourd'hui. Je ne voudrais pas statuer d'un prix trop plancher, tout d'un coup, que l'initiative du gouvernement voudrait aller bien au-delà de ça. Mais je dirais quand même que minimalement, il faudrait aller chercher le même tarif que l'Ontario est allé chercher. C'est eux sont capables, en fait, de facturer 503 pour 1 million de litres. On doit minimalement aller chercher ça. Ce tarif-là a déjà 2 ans d'âge, donc on pourrait même le dépasser, oui.
Bon. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez soulevé le fait que les entreprises consomment énormément d'eau. Mm-hmm. Les embouteilleurs, donc ils prennent l'eau, les mettent en bouteille, les revendent. Mais on ne sait pas combien exactement. Puis ça, c'est quelque chose que vous demandez, qu'il y ait plus de transparence. Puis vous êtes d'ailleurs allé, vous avez fait une demande à la Cour là-dessus. Malheureusement, vous avez perdu. On a dit que du côté de la Cour du Québec, que c'était le secret professionnel qui empêchait de dire combien les entreprises consommaient d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus là-dessus, même si la Cour...
Effectivement, la Cour, au début mars, a statué qu'il ne donnait pas raison, que c'est le secret commercial qui protégeait ces données-là, alors qu'on a une loi au Québec qui confirme que c'est une ressource qui est collective et qu'il y a un article qui nous donne droit, en fait, d'avoir accès à ces données-là. Donc, suite au refus de la Cour de nous donner accès, nous, on a mis une action en ligne. Donc, on peut aller sur le site Internet de Haut Secours et puis envoyer des messages au ministère de l'Environnement et puis au premier ministre demandant, en fait, une réforme. Il faut savoir que la semaine dernière, en Assemblée nationale, il y a eu une motion qui a été déposée et adoptée par l'ensemble des partis sans débat. Donc, on voit qu'également, à ce niveau-là, il y a une ouverture du gouvernement à rendre ça transparent. Ouais. C'est la base pour assurer une gestion responsable de l'eau, donc oui.
Alors, le dossier à suivre probablement cet automne lors de la campagne électorale. Merci beaucoup, Mme Pétrin, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Bonne soirée.
103e jour de guerre en Ukraine. Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé des attaques à Mariupol et dans l'est du pays, mais les bombardements ont repris dans la région de la capitale, Kyiv. Ce qu'on n'avait pas vu, en fait, depuis la fin avril. Par ailleurs, en fin de semaine, il y a le président Zelensky qui a pu se rendre pour une première fois dans le Donbass, qui est au cœur du conflit. C'est d'ailleurs à Kharkiv, dans le Donbass, qu'on retrouve le journaliste et collaborateur Fabrice de Pierrebourg. Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir, Michel.
Tu es de retour en Ukraine depuis quelques jours. Tu es à Kharkiv, plus précisément, deuxième ville de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu constates sur le terrain depuis ton arrivée?
Je suis arrivé hier en fin de journée. La première chose vraiment qui m'a surpris, c'est que c'est une ville quasiment fantôme. Des 1,4 million d'habitants, paraît-il qu'il en reste à peine 400 000. Et quand on se promène dans les rues, c'est vraiment pas évident qu'il y en a 400 000, Michel.
Ah ouais.
Beaucoup de bâtiments aussi officiels, gouvernementaux, mais aussi des immeubles d'habitation qui ont été bombardés. Beaucoup d'immeubles placardés par l'effet du souffle de ces explosions assez puissantes. Et aujourd'hui, je suis à l'extérieur de Kharkiv vers l'est, donc une zone qui a été récemment libérée, puis vers le front. C'est le nord de tout ce large front qui va de Kharkiv jusqu'à Mariupol et un peu plus loin en direction d'Odessa. Et c'est toujours la même chose. Hein. Ce n'est que destruction, des gens qui essaient de revenir chez eux, qui habitent dans des conditions vraiment incroyables, dans des maisons qui n'ont plus de toit, des murs lézardés, des tas de gravats. Et puis aussi, malheureusement, c'est le moment où les policiers, les enquêteurs commencent à trouver des corps. Aujourd'hui, par hasard, on est tombé d'ailleurs sur une équipe de la police scientifique ukrainienne qui était en train d'exhumer le corps d'une femme à l'arrière d'une maison. C'était son mari qui l'avait enterré dans le jardin, finalement, ouais. Ce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Elle avait été touchée par des éclats probablement d'obus et elle est morte au bout de son sang puisque c'est en pleine zone occupée jusqu'à très peu de temps. Et il n'avait pas de choix, finalement, elle est morte comme ça. Quoi.
Regarde les images, on a la difficulté à croire qu'il y a encore des gens quand même qui sont toujours sur place parce que les frappes se poursuivent, là. Des frappes mortelles. Tu étais à Kyiv en fin de semaine, ville qui a été bombardée à nouveau, ce qui n'avait pas été le cas, je le disais tout à l'heure, depuis plus d'un mois. Qu'est-ce que l'armée russe cible ces temps-ci? Là?
Bah, eux, ils disent qu'ils ciblent des infrastructures ferroviaires qui servent notamment à amener du matériel militaire. On sait que l'Occident envoie de plus en plus de matériel lourd, d'artillerie à longue portée. Et c'est ça qu'ils cherchent à viser. Les Ukrainiens disent non, 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 à Kyiv. Puis moi, je l'ai vu à Kyiv, cette frappe-là hier, c'était juste avant que je parte. C'était uniquement un entrepôt avec des wagons qui servent à amener du blé, par exemple, à essayer de sortir du blé d'Ukraine. À Kharkiv, hier, quand je suis arrivé, il y a eu deux bombardements quasiment une minute de temps. Ça fait un bruit vraiment incroyable là où on est. Et ce matin, le gouverneur disait qu'il y avait 3 morts, 10 blessés. Mais il faut savoir, Michel, que la frontière russe n'est à 40 kilomètres de Kharkiv.
C'est pas loin, là.
Donc, ce que nous disait un officier ukrainien avec qui je suis allé passer du temps dans des positions défensives cet après-midi, c'est que les Russes, oui, ont été repoussés presque jusqu'à la frontière dans une grande partie autour de Kharkiv, mais c'est toujours à portée de leur artillerie, de leur roquettes. Mm-hmm. Mais cette position-là a été bombardée cette nuit. On a vu des roquettes au sol.
Ouais.
Donc, ils ne sont, même s'ils ne sont plus sur le terrain tant que troupes à pied de fantassins, la menace est toujours très présente.
Il nous reste une trentaine de secondes, Fabrice. Le président Zelensky a fait une visite au cours des derniers jours dans le Donbass. C'était une première visite. Comment elle a été accueillie par les soldats?
Moi, je ne suis pas allé encore dans le secteur où il est allé. C'est sûr que le président a un charisme et c'est sûr qu'il arrive à réunir autour de lui, pour l'instant, toute une population, quoi. Mais c'est sûr que le fait qu'il se rende sur le terrain, ça permet de galvaniser les troupes, mais tout le monde me dit aujourd'hui qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier homme pour empêcher les Russes de revenir ou de progresser davantage.
Il y a vraiment toute une résistance de la part des Ukrainiens. Fabrice de Pierrebourg, merci beaucoup pour ce compte-rendu. Sois prudent parce qu'on voit que les bombardements se poursuivent. C'est un travail pas évident non plus pour les journalistes là-bas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Michel.
The vote in favor of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes. And a vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. Yeah.
Alors, Boris Johnson va demeurer Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il a survécu au vote de confiance auquel il a été soumis après le Partygate, dans les nombreux partis auxquels il a participé pendant la pandémie. Sabrina Rivet a suivi ça cet après-midi. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Michel.
Alors, le résultat est assez clair, hein?
Oui, non, définitivement, on l'a entendu quand tu as commencé à parler, c'est-à-dire donc on voyait donc 211 députés conservateurs qui ont voté en faveur de Boris Johnson et 148 qui ont voté contre. Enfin, il avait besoin de 180 députés pour qu'il puisse, dans le fond, réussir ce vote de confiance, et c'est ce qu'il a obtenu. Donc, on peut voir quand même que ça avait été demandé par de nombreux députés. Donc, il y avait reçu 54 lettres et on avait demandé à ce qu'il y ait un vote de confiance, parce que ça part de où quand même tout ça, ces fameux Partygate-là, c'est que pendant la COVID-19, pendant la pandémie, bien, Boris Johnson a été pris à plusieurs reprises en train de faire la fête, notamment à Downing Street. Et justement, bien, je vous ai répertorié deux dates. Donc, on a notamment le 13 novembre 2020, qu'on pourra aller voir dans un tableau. Il y a une fête qui est organisée à l'appartement de Boris Johnson malgré un deuxième confinement. Et il y a également d'autres fêtes également qui ont été organisées. Et bien sûr, bien, ça a fait jaser dans la population. Par la suite, bien, il y a eu évidemment, des demandes d'enquête qui ont été réalisées, notamment au mois de janvier dernier. Il y a un autre fonctionnaire qui a été chargé d'enquêter sur les infractions qui a rendu public, en fait, les grandes lignes de son rapport. On peut y lire qu'il y a eu des échecs au leadership et de jugement de la part des différentes parties de Downing Street. Bon, à ce moment-là, Boris Johnson s'est excusé, mais avait exclu de démissionner. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est qu'au mois de mai dernier, bien, la police de Londres avait annoncé avoir clos une enquête sur les infractions au confinement, donc à Downing Street, et avait comme infligé 126 amendes au total pour 8 événements impliquant Boris Johnson allant du 20 mai 2020 au 16 avril 2021.
Vous disiez tout à l'heure, il reste en place comme premier ministre. Il ne sera pas soumis tito à un autre vote de confiance.
Non, effectivement. Là, donc, pour les 12 prochains mois, il peut dormir sur ses deux oreilles parce qu'il ne peut pas être soumis à un autre vote de confiance, ce qui veut donc dire donc, qu'il reste premier ministre et il n'y aura pas de nouvelle course dans le fond leadership, parce que s'il avait perdu, en fait, bien, là, il aurait fallu qu'on trouve à l'interne une nouvelle personne qui serait devenue premier ministre de la Grande-Bretagne. Mais là, finalement, tout ça est derrière lui. Mais somme toute, quand même, je disais, les citoyens là, en Grande-Bretagne sont un peu échaudés.
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Assaut sur le Capitole à Washington. Les audiences publiques de la commission d'enquête commencent cette semaine. À quoi peut-on s'attendre? On en parle avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin après la pause. La Cour d'appel entendait aujourd'hui une requête pour lever le voile sur ce qu'on appelle maintenant, depuis qu'on en a appris l'existence, le procès secret ou le procès fantôme. Un procès qui s'est tenu sans que personne ne soit mis au courant. Notre collaborateur Yves Boisvert était sur place aujourd'hui. Il a suivi le dossier. Bonsoir, Yves.
Salut, Michel.
Alors d'abord, rappelle-nous brièvement, c'est quoi ce procès secret-là pour les gens qui n'ont pas suivi ça?
Ça va être très bref, Michel, parce que c'est un procès secret. Alors, on ne sait pas où il a eu lieu. On devine que c'est à la Cour du Québec. On devine, parce que ce n'est pas officiel, que c'est les procureurs fédéraux qui ont fait le dossier. On ne sait pas quelle date et on ne sait pas pour quel crime.
Donc, on ne sait même pas le nom du juge.
Non, on ne sait même pas le nom du juge. Et ça, c'est du jamais vu, Michel, et j'en ai couvert un certain nombre de choses. Mm-hmm. Des choses, disons, où la sécurité est un enjeu majeur, genre un procès de terroriste à New York. J'ai jamais vu ça, un juge qui ne dévoile pas son identité. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que c'était le procès d'un indicateur de police. Donc, c'est
un
quelqu'un...
Un informateur qu'on voulait protéger.
Oui, et ça, les médias reconnaissent ça. Mm-hmm. Personne ne veut nommer cette personne dont la vie est en danger.
Des publications, il y en a à tonne dans nos palais de justice.
Et même, ça va plus loin dans le cas d'un indicateur, parce que personne ne doit savoir c'est qui. Cette personne-là donne des renseignements à la police en étant dans le milieu mm-hmm. criminel. Donc, elle risque sa vie. Alors, un huis clos pour cette portion-là, c'est reconnu depuis toujours par la jurisprudence.
Un procès dans lequel on connaît le nom des avocats, on connaît le juge, on connaît le pourquoi.
C'est quoi le crime?
En tout cas, c'est quoi, c'est ça?
En fait, la règle est simple, c'est aucune information qui permet de l'identifier.
Bon. Aujourd'hui, parle-nous de ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'était l'audition de la requête de plusieurs avocats, les avocats de médias, dont on a employé la presse. Il y avait la juge en chef de la Cour du Québec, le Cirondeau, le procureur général du Québec, qui ont demandé qu'il y ait plus d'informations sur ce qui s'est passé.
Alors, là, c'est encore un peu surréaliste, Michel, parce que, en fait, c'est la Cour d'appel qui nous a appris l'existence de ce procès-là. Et juste un autre détail quand même intéressant, le juge n'a pas présidé le procès en personne. Le procès s'est fait à l'extérieur d'une salle d'audience, probablement à l'extérieur du palais de justice. On lui a donné les notes du procès pour qu'il juge.
Ouais.
Bon. Alors, c'est allé en cour d'appel parce que le juge a déclaré coupable d'un crime X, cet informateur. La cour d'appel a arrêté les procédures. C'est un autre... Disons que c'est la chose la plus importante sur laquelle ils sont prononcés, mais c'est là qu'on dit, bon, il y a eu ce procès secret. Alors, nous, médias...
Les médias.
On est allé devant la cour d'appel en demandant, écoutez, donnez-nous un minimum d'informations, tracez la ligne quelque part. Le huis clos absolu, ça n'a pas de bon sens. Et donc, la cour d'appel a mis ça en délibéré. Là, qui est encore la continuation de cette situation-là, c'est que les avocats des médias plaident en public, comme dans une cour d'appel normale, avec ces trois juges qui écoutaient ça. Ensuite, on sort. Un huissier vient...
barrer la porte.
Barrer la porte. Vraiment, un huis clos, là, littéralement. Oui. Et là, les avocats des parties impliquées plaident sans qu'on soit là, à visage donc couvert pour nous.
Oui, oui.
Et donc, on ne sait toujours pas. Et la cour d'appel, et pour moi, c'est quand même un peu absurde qu'ils nous ont donné... pas la moindre bribe d'information. Toujours pas le nom du juge.
Il reste 45 secondes, on n'a rien appris aujourd'hui, donc.
On n'a rien appris de nouveau. Je sens que la cour d'appel veut faire quelque chose. Maintenant, là, il faut qu'ils décident, est-ce qu'ils ont le droit, eux, de lever le huis clos ou il faut qu'ils retournent ça au juge? Des questions techniques, pas très intéressantes, mais qui font en sorte que ça continue. C'est comme si c'était pas si grave ou si urgent que ça.
Justement, en terminant, dis-moi, c'est quoi le risque que court le système de justice au Québec en gardant un secret comme
Michel,
ça, un procès secret comme ça?
C'est une question fondamentale de crédibilité.
Et de confiance.
Une justice de secret, ce n'est pas de la justice. Et tout le monde est d'accord avec ça.
Merci beaucoup. Là, il n'y a pas de décision. On attend la suite.
On a très hâte.
Bon, merci beaucoup. À bientôt, on en reparlera. Actualité américaine maintenant, ben on entre dans une semaine importante pour la commission d'enquête sur l'insurrection du Capitole avec le début des audiences publiques. C'est un des sujets qu'on va aborder avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Michel.
La commission d'enquête sur l'insurrection du 6 janvier va entrer dans cette semaine d'une nouvelle phase avec le début de ces audiences. Tout d'abord, qu'est-ce qui est prévu?
Et ce qui est prévu, c'est le contraire de ce dont vous venez de parler. Alors, on ne sera pas dans le secret pour une fois. On va être vraiment dans
livre ouvert.
Quelque chose de plus... Oui, exactement. Et je te dirais que le livre va être très grand ouvert parce qu'on veut démontrer aux Américains ce qui s'est passé la journée du 6 janvier, la journée de l'insurrection. Et les gens voient des images. Je suis pas mal certaine qu'on s'en rappelle tous de cette journée où il y a eu cette menace envers les élus au Capitole après une manifestation menée par Donald Donald Trump. Alors, ça, c'est un peu en gros, on va démontrer ce qu'on a eu, ce qu'on a appris dans les environ 1000 entrevues imaginées avec différents témoins, différentes personnes qui ont été appelées à témoigner à cette commission d'enquête. Et on dit qu'on va présenter des images inédites de ce qui s'est passé le 6 janvier. Donc, il y a des images qu'on voit en ce moment. On les a vues dans plusieurs médias, mais là, quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais été diffusé. Bref, on veut peut-être choquer un peu l'opinion publique et démontrer aussi ce qui s'en vient, qui seront les prochains à témoigner. Parce que là, si on fait ça en heure de grande écoute et dans le public, c'est justement pour créer un effet, une réaction auprès du public.
Oui, parce que c'est ça, certaines audiences vont être diffusées pendant des heures de grande écoute. On sait qu'on va vouloir montrer du doigt l'ancien président Donald Trump pour son rôle dans ces événements, mais concrètement, est-ce que ça peut changer quelque chose?
C'est difficile à dire parce que quand il y a des scandales impliquant l'ancien président Trump pendant sa présidence, avant sa présidence, maintenant, après, je dirais que l'aiguille de l'opinion publique n'a jamais vraiment bougé. On avait l'impression qu'il était teflon, que tout pouvait arriver. Mais là, on dit qu'on va avoir des surprises, qu'on va avoir des déclarations qui vont choquer les gens. Est-ce que c'est vraiment juste un peu à comme un film américain, là? Vraiment, on veut donner le goût aux gens d'écouter ces audiences-là? C'est possible. Est-ce que ça va changer? Peut-être l'opinion de certains, mais de façon générale, quand ça fait aussi longtemps aussi que l'insurrection s'est produite, je pense qu'il y a des Américains qui ont passé à autre chose. Et il y en a, c'est pas tout le monde qui va avoir vraiment l'intérêt et le goût de croire ce qui va être présenté en preuve dans ces audiences-là.
Bon, alors on suivra ça cette semaine. Mais l'autre dossier chaud depuis plusieurs semaines, qui est encore le cas au cours des derniers jours, c'est la question des armes à feu. Après plusieurs autres fusillades au cours des derniers jours, les négociations se poursuivent. Est-ce qu'on s'approche d'une entente?
Selon un des sénateurs qui est en charge, un sénateur du Connecticut qui était très au fait après la tuerie de Sandy Hook, qui est depuis des années militant pour de la législation, il dit que oui, il est confiant pour la première fois de sa carrière qu'on pourra aller de l'avant parce qu'il y a eu la 246e fusillade de l'année, donc ce week-end. Écoute, ça va très, très vite, malheureusement, ces fusillades-là. Les chiffres sont exponentiels. Et là, ce qu'on veut faire, c'est les antécédents, mieux les vérifier. C'est ce qui pourrait être dans cette loi-là, si on s'entend. Ce qu'on appelle les « red flag laws », alors les lois drapeau rouge aussi pour dénoncer quelqu'un qui pourrait être menaçant. On pourrait aussi investir en santé mentale, investir dans la sécurité des écoles. Mais est-ce qu'on ira plus loin, Michel? Ça me surprendrait qu'on puisse satisfaire la plupart des démocrates.
Joe Biden aurait aimé qu'on aille plus loin, comme il l'a présenté dans son discours de la semaine dernière.
Oui. Je pense qu'il sera parmi ceux qui seront déçus peut-être de cette loi, mais au moins, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? À mon avis, oui. Est-ce que ça va satisfaire tout le monde? C'est certain que non, mais avec la... Tu le sais, à quel point on est divisé en ce moment aux États-Unis, au Congrès, ça va être extrêmement difficile de s'entendre sur autre chose.
Valérie Beaudoin, merci beaucoup. On en reparle bientôt.
Merci, à bientôt.
La hausse des prêts en immobilier n'affecte pas uniquement le secteur résidentiel, c'est aussi un problème pour les organismes communautaires. Il y a le centre communautaire Antique qui se retrouve dans une bien mauvaise position, vous allez voir, parce que son locataire, le Centre de services scolaires de Montréal, augmente de plus de 200% ses frais de location. Impossible pour eux de payer une telle augmentation et difficile de trouver de nouveaux locaux à bas prix ces temps-ci. J'en parle avec ma collègue Fanny Lachance-Paquette qui s'est intéressée à cette histoire. Bonsoir Fanny.
Bonsoir, Michel.
Dis-moi, comment on justifie une augmentation de loyer aussi importante?
Bien, ce que dit le Centre de services scolaires de Montréal, c'est que les coûts d'entretien ont aussi monté en flèche au cours des dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'augmenter le prix des loyers. Et ça fait plusieurs années déjà qu'on demande une augmentation comme ça aux organismes qui sont sur place. On leur avait accordé un sursis, mais là, c'est la fin de cette période de sursis. Et ce qui est particulier, Michel, c'est qu'on dit toujours au gouvernement Legault l'importance qu'ont les organismes communautaires. Et là, bien, le Centre de services scolaires, qui dépend du ministère, ne semble pas vouloir aider particulièrement les organismes. Le ministère dit bien, c'est au Centre de services scolaires de s'entendre avec eux. Nous, on les encourage à discuter entre eux. Et d'ailleurs, bien, il y a une rencontre qui est prévue ce mercredi entre les organismes et le Centre de services scolaires. On espère trouver une solution parce que là, vraiment, il est minuit moins une.
Il y a 13 organismes qui sont hébergés dans le bâtiment à l'heure actuelle.
Puis c'était une ancienne école?
Une ancienne école construite en 1919 et qu'on occupe depuis 1999, là, les organismes communautaires d'Antique. En fait, depuis 2018, la CSDM nous demande une hausse de loyer pour une nouvelle grille tarifaire, finalement. On passerait d'environ 100 000 $ de loyer qu'on paie par année à 250 000 $ par année. C'est une hausse de 222 % finalement, qu'on nous demande. Donc, il y a le comité logement de ce côté-ci. Ici, on arrive à une superbe classe de francisation qu'on peut bien voir.
Donc, on a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on octroie 50 000 $ par année à Solidarité Annecyc pour les aider à payer les hausses de loyer. Et l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un projet de centre communautaire dans un nouveau quartier qu'on est en train de concevoir et de bâtir dans les prochaines années. Et
on parle peut-être de 2024-2025 pour le nouveau centre communautaire qui serait sur le site Louvain. Donc, c'est cette période-là qui nous inquiète, qu'à la fois si on nous met dehors parce qu'ils veulent vendre le bâtiment, ou encore on ne pourra pas payer 250 000 $ par année d'ici la construction du nouveau bâtiment.
Donc, ici, c'est votre banque alimentaire.
Oui, c'est la banque alimentaire du service de nutrition et d'action communautaire. Avec un seul ticket d'autobus, ils peuvent venir chercher divers services, que ce soit de l'aide alimentaire, de la francisation, une halte garderie, de l'information sur les droits au logement. Bref, c'est vraiment... il y a une synergie entre les organismes qui permet justement d'un partage de ressources également.
C'est ça. C'est un guichet unique pour obtenir des services essentiels et des services qui viennent en aide à des populations très vulnérables. Et moi, je ne comprends pas le manque de cœur du Centre des services scolaires.
Donc, on arrive à Pause Famille, qui est un organisme qui vient en aide aux familles vulnérables du quartier.
Si vous ne payez pas, on vous met à la porte?
Oui, on a commencé à recevoir des missives qui ressemblaient à des mises en demeure, qui finalement étaient des mises en demeure, nous demandant finalement de payer un arrérage sur la période qu'on n'avait pas payée dans le passé, parce qu'on continue à payer le même loyer que depuis 2017. Mais il y a un arrérage qui s'est accumulé selon eux. Donc, on nous demande aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, 500 000 $ d'arrérage à payer. Le CSSDM a les mains liées. En fait, c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui oblige le CSSDM à faire de l'argent avec ses bâtiments excédentaires.
Ça, là, c'est la cerise sur le sundae. Et je ne comprends pas comment il se fait que le ministre Roberge ne vient pas au secours de ces gens-là et ne dit pas « assez, c'est assez, puis nous allons garder, maintenir cet édifice-là au service » de ces citoyens les plus vulnérables.
Mais oui, effectivement, ils pourraient nous dire le 18 juin prochain, on veut que vous quittiez les lieux. Et là, bien, évidemment, je pense qu'on aurait d'autres démarches à prendre.
Une partie importante des espaces à bureaux sont encore vides au centre-ville de Montréal. On est loin encore de l'achalandage pré-pandémie. Là, pour ramener les visiteurs, les autorités ont annoncé un investissement de 3 millions de $ pour l'illumination de bâtiments. Est-ce que c'est une bonne idée? Étienne Fortin-Gauthier nous présente le projet.
Et vous dites, donc, il y a combien de pourcentages d'espaces à bureaux qui sont vides en ce moment?
On estime environ 17 % près de 17 % des espaces à bureaux du centre-ville de Montréal qui sont vides.
On a quand même une stabilité. On est très loin de la dégringolade que tout le monde prévoyait au début de la pandémie. Pas notre premier rodéo. On a été capable de se reconstruire. Et c'est ce qu'on voit en ce moment au centre-ville de Montréal.
L'ancien site du club Super Sex qui a brûlé il y a quelques mois, pas très séduisant pour les touristes ou les travailleurs du centre-ville, mais c'est un des premiers sites qu'on va transformer en galerie urbaine et qu'on va illuminer, le premier d'une longue série.
J'aime particulièrement le projet, évidemment, qui vise à illuminer notre belle métropole. On vise une galerie d'art publique illuminée sous Sainte-Catherine, l'illumination de bâtiments dans le quartier des spectacles et l'installation de structures lumineuses pas plus tard que cet hiver.
Et même nos ambitions plus loin, avec la vision de Tourisme Montréal, c'est d'accoucher éventuellement à un plan lumière. Le but est d'en faire des dizaines et même des douzaines dans les prochaines années.
Montréal, il y a autant de pollution lumineuse qu'à New York. Et là, on veut en rajouter. Comment vous trouvez ça comme ministre de l'Environnement?
Bien, d'abord, il faut bien voir que... on a maintenant des systèmes d'illumination qui permettent de réduire beaucoup la pollution lumineuse. Donc, on sait maintenant comment faire de l'éclairage sans nécessairement faire de la pollution lumineuse. Alors, c'est possible de faire les deux.
Éliminer des dizaines de bâtiments de plus à Montréal, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je vais aller en parler avec un chercheur qui étudie la question de la pollution lumineuse dans la métropole.
Parce que éclairer des bâtiments, on fait des grandes annonces avec ça, ça paraît extraordinaire, mais il peut avoir un côté sombre un petit peu aussi.
Oui, exactement. Donc, ça peut être ça peut avoir un impact négatif sur la nature et sur l'humain. C'est une très mauvaise idée d'éclairer vers le haut en général. Même si on éclaire un bâtiment, c'est toujours mieux de mettre une lampe en haut qui éclaire vers le bas et de faire attention à la couleur qu'on émet. Le bleu, c'est tout le temps à éviter. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup les trucs festifs comme ça. Donc, je veux pas être juste un gâcheux de party puis arriver puis dire que c'est nécessairement une mauvaise chose. Mais ça me tient à cœur qu'on le fasse avec prudence.
En éliminant le soir le centre-ville, on va ramener le jour des travailleurs au centre-ville.
Entre autres, l'élimination ne vise pas que les travailleurs.
Non.
Et c'est justement ça l'enjeu. Il ne faut pas penser au centre-ville de Montréal juste comme un pôle de travailleurs. C'est un milieu de vie complet. Mais à la base, une grande métropole comme Montréal, on ne voit plus les étoiles. Alors, c'est d'être capable de voir notre patrimoine. On ne veut pas être Vegas, puis on ne veut vraiment pas être Times Square non plus. On veut être Montréal. Et Montréal, c'est de l'élégance, c'est un patrimoine architectural.
L'ancienne mairesse de Longueuil et ex-députée bloquiste Caroline Saint-Hilaire a finalement confirmé qu'elle se présente pour la CAQ dans Sherbrooke, où la lutte s'annonce serrée. Elle affrontera la députée actuelle de Québec solidaire, Christine Labrie, qui espère être réélue pour un second mandat. Alexandra Paré fait le point sur les forces en présence.
Il y avait de la visite politique hier à Sherbrooke. Le premier ministre François Legault qui est venu confirmer que l'ex-mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, sera sa candidate dans la circonscription de Sherbrooke.
On voit que c'est une femme de cœur, mais aussi une femme d'action. Elle vient pas pour gérer la continuité, elle s'en vient ici pour changer les choses. Donc, j'ai besoin de Caroline à Québec. Je pense que les gens de Sherbrooke aussi ont besoin d'une femme forte comme Caroline à Québec.
Là, j'ai envie de faire rayonner Sherbrooke. J'ai envie qu'elle prenne place à la table des décisions. Je vais aller à la rencontre des gens d'affaires. Je vais aller à la rencontre des organismes communautaires, culturels aussi. Je veux être la candidate de tous les citoyens de Sherbrooke.
Puis quelques heures plus tard, les porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabrielle Nadeau-Dubois, officialisaient la candidature de l'actuelle députée de Sherbrooke, Christine Labrie.
Hein, Christine, c'est une femme qui est droite, qui est juste. Elle met toujours sa tête au service de son cœur.
Les progressistes ont leur candidate et cette candidate, c'est Christine Labrie.
Pour interpeller les électeurs, les solidaires ont misé sur différents dossiers portés par la députée actuelle. On parle d'éducation, de santé mentale ainsi que de logements sociaux.
Et les accomplissements dans la circonscription de Sherbrooke qui sont importants. Je pense notamment à l'obtention du financement pour un centre de crise communautaire en santé mentale. Et j'en ai encore beaucoup à donner.
Pour sa part, la CAQ a misé sur la vitalité économique de la région de Sherbrooke.
Il n'y a pas de raison que Sherbrooke ne soit pas une ville avec des salaires plus élevés que ce qu'on a actuellement. Puis je pense qu'avec la zone d'innovation, avec une députée aussi qui croit au développement, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à Sherbrooke.
La meilleure équipe pour l'Estrie, c'est l'équipe de Québec solidaire!
Chose certaine, ça risque d'être une bataille intéressante à suivre quand on sait que la circonscription de Sherbrooke bien, est la seule à ne pas être caquée sans Estrie. Je vous rappelle que les élections provinciales auront lieu le 3 octobre prochain.
Comment éviter les hausses exorbitantes de loyers? On vous présente, après la pause, un nomade urbain sans domicile fixe qui se promène d'appartement en appartement pour garder les animaux. On en parle souvent, c'est la course au logement alors que le 1er juillet approche. Les taux d'inoccupation sont faibles, les loyers sont donc en forte hausse. Selon un rapport de la SCHL, on parle d'une augmentation de 3,7 % en un an dans la région de Montréal. Et si vivre sans domicile fixe était une solution, il y a ma collègue Jennifer Exantus de l'équipe numérique qui a rencontré un nomade urbain qui garde les animaux des vacanciers en échange d'un toit.
Bon, on le sait, se trouver un appartement à Montréal ou même s'acheter un condo ou une maison, c'est pas facile en ce moment. Puis on a rencontré un nomade urbain. Lui, il a décidé qu'il n'avait plus de domicile fixe. Donc, il gère une compagnie technologique, mais depuis le mois de septembre, il garde les animaux des gens qui partent en vacances. En échange, il vit dans leur appartement, leur condo, leur maison. Donc, on se trouve actuellement dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal devant ce qui va être son nouvel appartement pour les 3 prochaines semaines.
Je m'appelle Thibault Renouf, je suis entrepreneur en technologie et je suis nomade à Montréal. Être nomade, c'est que j'ai pas de domicile fixe. Je suis en mouvement tout le temps et j'ai pas une adresse permanente. Avec le Covid, de plus en plus de personnes ont pris des animaux et veulent retourner en voyage maintenant que c'est un peu plus calme. Puis ça coûte cher souvent de faire entretenir son animal par quelqu'un extérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je viens dans votre maison, je m'occupe de vos animaux et vous retrouvez votre maison propre. Au début, je vivais de location de chambre sur Montréal et puis avec le Covid, j'ai dû arrêter. Je me suis retrouvé en dehors de mon appartement puisqu'il y avait plus de touristes qui venaient pour louer les chambres que j'avais à proposer. Et je suis parti de Montréal, je suis parti quelques mois à l'étranger, retourner dans ma famille. Et puis en revenant, il fallait que je me reloge, il fallait que je retrouve un endroit où habiter. J'avais plus le goût de réembarquer sur des meubles, sur un bail, sur tout ce que ça peut vouloir dire. Sachant que avec le Covid, ma perception aussi a un peu changé. Je puis commencer à imaginer que je puisse ne pas être toujours dans le même quartier, toujours dans la même ville. Et pouvoir me déplacer un peu au hasard des rencontres. Et puis aller garder des maisons à la ville, à la campagne, au Québec, en Ontario, aux États-Unis ou même pourquoi pas dans les Caraïbes. En trouvant une application qui s'appelle Trusted House Sitter, j'ai pu trouver un appartement pour arriver ici. Et de fil en aiguille, en fait, de bouche à oreille, j'ai rendu service à des amis, puis à des amis d'amis, puis l'application m'a permis de trouver d'autres locations. C'est principalement à Montréal que je suis localisé parce que j'ai mon entreprise à Montréal. Je voyage quand même 2 semaines, 3 semaines parfois à l'étranger, comme au Connecticut, au Massachusetts, où je vais partir garder des chiens et des chats à la suite. Mais sinon, je suis allé en Ontario pour garder une tortue. C'est quand même l'animal le plus exotique que j'ai gardé, quoique j'ai gardé des cacatoès, des chevaux, des poules, beaucoup de chiens, beaucoup de chats surtout. Mais bon, on a des poissons, on a des plantes. Pour ma part, c'est un mode de vie qui me correspond maintenant à cette époque-ci de ma vie. Après, je comprends que beaucoup de monde ont besoin aussi d'attaches, de maisons, d'avoir des familles, d'avoir des animaux. Quand je suis arrivé là en septembre, je me suis demandé si c'était possible et réaliste. Et en fait, je me demandais si j'allais pouvoir le faire et quelle complexité ça aurait de faire ça. Puis finalement, je me rends compte que je suis obligé de refuser des offres, donc je me dis que le modèle est intéressant quand même. Le processus aussi personnel de dématérialisation est intéressant, donc j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, j'y prends du plaisir et puis je me vois bien continuer un petit moment et peut-être pas même qu'en Amérique du Nord. Je me verrais plutôt voyager, même dans des zones plus exotiques.
Quand même, c'est original. C'est le retour des navettes fluviales et le projet a été élargi cet été. En plus de la liaison entre Pointe-aux-Trembles et le vieux port de Montréal, il y a 5 nouveaux trajets qui ont été ajoutés. Il sera notamment possible de traverser de Boucherville jusqu'au vieux port. Avec les travaux qui se déroulent en ce moment dans le pont-tunnel Louis-Polyte-Lafontaine, les usagers se réjouissent de cette nouvelle liaison.
Le bienfait d'avoir utilisé la navette ce matin, c'est que mon ami qui reste à Boucherville, c'est plus facile pour moi de traverser. Ça me permet d'arriver plus vite. Plus en forme. J'avais hâte qu'elle refonctionne. Puis elle fonctionne, c'est la première journée aujourd'hui.
Moi, c'est toujours l'idée de pouvoir éviter de vivre dans le trafic. C'est pas tant une question de gagner du temps que de juste pouvoir mieux optimiser mes déplacements pour pouvoir en profiter un peu plus. Ce matin, c'était fantastique à 7h sur le bord de l'eau à regarder les gens dans le trafic. Moi, à pouvoir travailler dans le bateau. Parce que c'est un peu ça aussi. Je peux pas travailler en auto, mais je peux travailler dans le bateau. Ça le cachera pas. Le pont tunnel, c'est de la chenoute. Là. Moi, je l'ai fait depuis des années. Puis cette année, c'est la pire année. Là.
Rebonsoir, Sabrina.
Rebonsoir, Michel.
Il y a des organismes qui demandaient qu'il y ait un débat des chefs aux prochaines élections strictement sur le sujet de l'environnement. Mais le premier ministre François Legault a fermé la porte.
Et sur les changements climatiques aussi. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est que non, il ne voulait pas participer à ce débat-là, malgré le fait quand même que tous les chefs d'opposition ont répondu oui à quand même à cette invitation-là de ce collectif d'une vingtaine, en fait, d'organismes communautaires. Et lui, bon, pas nécessairement dit de raison pourquoi. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a peut-être un candidat qui pourrait participer à ce débat-là. Mais chose certaine, pour François Legault, la porte semble fermée.
Bon. L'Auto-Québec est à la recherche de millionnaires.
Ben oui, je me suis dit une bonne petite nouvelle en ce lundi, si jamais vous habitez à Montréal.
Puis que vous avez le billet.
Puis vous avez un billet. Québec 49, ça a été acheté ce week-end sur un lot de 2 millions de dollars.
Ah, fait que oui.
Regardez peut-être dans le fond de vos poches, dans le fond des sacoches, peut-être qu'il y a un petit billet qui traîne, puis vous allez peut-être trouver 2 millions de dollars. Moi, ça rendrait votre lundi comme ma salaire.
Ah ben, j'ai moins un petit 2 millions, j'ai l'impression qu'un
pourquoi
petit
pas.
2 millions.
Ouais, c'est
quand
ça.
Même. Hey, ce soir, au fil 22.
Oui, ben, on va revenir. Boris Johnson qui a finalement réussi son vote de confiance aujourd'hui. On va aller directement à Londres parler avec Marie Bilon, qui est une journaliste, pour parler de cet événement-là aujourd'hui.
On regarde ça à 22h. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dès 17h. Bye-bye.